Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à midi. Émission réalisée ce matin par Alexandre Fougeron et mise en onde par Pascal Baudin. Troisième volet de notre série consacrée à la nostalgie. Aujourd'hui, on va parler du spleen, maladie de l'exil. Et comme chaque jour, c'est Jean Starobinski, grand théoricien de la nostalgie, qui nous ouvre la voie.
Pour alimenter en quelque sorte le répertoire de la nostalgie, on n'oublie pas quelques citations du passé. On n'oublie pas Ulysse au début de l'Odyssée ou à la fin du livre 5, désireux de revoir fumer les toits de sa patrie. On n'oublie pas Ovide en exil et perdant l'usage de la parole à force de ne parler qu'à des barbares qui le considèrent lui comme un barbare. Donc, vous avez déjà le sentiment que des traducteurs modernes peuvent traduire par « avoir la nostalgie ».
Jean Starobinski, dans un entretien avec Emmanuel Laurentin, c'était le 15 mai 2006. On s'intéressera aujourd'hui au Ulysse contemporain et à tous ces peuples dispersés. La nostalgie de l'exil, c'est notre sujet ce matin.
My name is Ilia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey.
Hello!
This story was told me over the years by the old people in my family. They remember Anatolia, the great central plateau of Turkey and Asia. And they remember the mountain Aegis standing above the plain. Anatolia was the ancient home of Greek and Armenian people. But 500 odd years ago, the land was overrun by the Turk. And from that day, the Greeks and the Armenians lived as best they could.
Mon nom est Ilia Kazan, je suis grec de sang, turc de naissance et américain car mon oncle a fait un voyage. L'Anatolie était la terre natale des Arméniens et des Grecs, mais il y a 500 ans, notre terre a été envahie par les Turcs et à partir de ce jour, les Grecs et les Arméniens ont tenté de continuer à vivre. En 1963, le grand réalisateur américain Ilia Kazan, né en 1909 à Istanbul, tourne en noir et blanc « America, America » d'après sa propre saga familiale. La longue marche de son oncle paternel, contraint de quitter son Anatolie natale, en proie au premier génocide du XXe siècle. Un chef-d'œuvre, le film préféré de son auteur, qui est avant tout un film mémoire, mémoire du massacre de 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1923. C'était sur ordre du gouvernement nationaliste des jeunes turcs. Le terme nostalgie de nostos, le retour, et algos, la douleur, signifie le mal du pays, ce pays que l'on quitte après la catastrophe et qui semble garder en otage les ferments de l'identité, celle d'avant le drame et l'arrachement. Alors, comment la nostalgie permet-elle d'entretenir le souvenir de la patrie perdue? Comment se nourrit-elle à travers les générations? Et surtout, permet-elle vraiment de perpétuer une identité réelle ou fantasmée? Avec nous pour en parler tout au long de cette émission, Martine Ovanessian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages sur la diaspora arménienne, Le lien communautaire, publié il y a plusieurs années déjà, mais aussi Les récits de nos vies atteintes, une histoire arménienne inconcevable, c'était chez l'Harmattan en 2013. Alors, je voudrais commencer, Martine Ovanessian, par un peu d'histoire. La diaspora arménienne compte aujourd'hui environ 4 millions de personnes. Alors, les chiffres sont à prendre avec précaution, qui sont répartis principalement entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. C'est plus que la population de la République d'Arménie, qui compte moins de 3 millions d'habitants. Alors, l'émigration arménienne ne remonte pas exclusivement à la période qui a suivi le génocide, mais la grande majorité a fui les persécutions entre 1915 et 1923. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les étapes de cette grande dispersion ?
Au niveau de la dispersion actuelle, oui, je voulais simplement pointer l'approximation des chiffres, puisqu'on est confronté réellement à une démographie sans statistiques, que ce soit pour la diaspora orientale, la diaspora occidentale, puisque la plupart ont en effet acquis la citoyenneté en fait des pays d'accueil, et aussi concernant la démographie en Arménie, puisque il il y a des migrations illégales, beaucoup partent en Russie travailler, ne se font pas enregistrer, etc. Donc les chiffres, il faut garder en tête que les chiffres sont extrêmement approximatifs et on peut passer même du simple au double. Voilà. Donc, pour en revenir à votre question, il y a ce qu'on appelle, après le génocide des Arméniens en 1915, suivi du kémalisme, formation de ce qu'on appelle la grande diaspora du XXe siècle, qui est une nouvelle configuration de la dispersion en opposition avec ces colonies marchandes déjà qui existaient dès la fin du XVIIe siècle. Cette grande diaspora du XXe siècle est formée par les rescapés, les survivants du génocide de 1915 et qui vont emprunter deux grands axes migratoires. Un, vers Constantinople et ensuite vers des foyers de regroupement, surtout les orphelins en Grèce, pour alimenter la France, par exemple, en quête de main-d'œuvre. Et puis ensuite, un axe plus important aussi, vers la Transcaucasie, et puis aussi des communautés qui vont se former au Proche et Moyen-Orient.
Le terme de diaspora a longtemps été utilisé pour désigner exclusivement la diaspora juive. Le mot prenait alors son sens premier de dispersion et renvoyait à la fuite des juifs après la destruction du temple de Jérusalem. Par extension, on a commencé à parler de diaspora pour qualifier tous les peuples séparés de leur terre d'origine. À quel moment la diaspora arménienne s'est-elle définie comme telle, Martine Ovanessian? Ou, pour le dire autrement, comment passe-t-on du statut de minorité à celui de diaspora?
La diaspora arménienne est consécutive à un accident de l'histoire. Elle n'est pas, elle ne s'intègre pas dans une longue histoire de l'exil. C'est un accident, l'idée même de diaspora. C'est le terme diaspora apparaît après la catastrophe arménienne qu'on appelle Yerevan en 1920, au moment justement de l'exclusion du territoire.
Et alors,
c'est un accident de l'histoire qui précisément, même ceux qui arrivent, les premières générations qui ont traversé, les témoins de l'Exode, s'interrogent véritablement sur ce qui leur arrive. Ce qui m'apparaît extrêmement important est intrinsèquement lié à la question de l'exil. Ce sont des réfugiés apatrides. On oublie souvent cette condition de l'apatridie qui signifie que consécutive au génocide, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient d'aucune protection de l'État et qu'ils sont en quelque sorte déchus de leur nationalité. Bon, cette condition d'apatridie est très très importante parce que elle va justement constituer l'exil comme un hors-lieu. Qui suis-je là? Moi, jeté dans le monde, hors du territoire, exclu du territoire, mis en orbite, sorte de hors-la-loi, dépossédé. Et c'est ça qui est extrêmement important concernant la migration arménienne. On est confronté à un exil de la dépossession qui fait suite, justement, à une destruction radicale. Donc ça change tout.
Alors, les récits que vous avez récoltés sur la vie des quartiers arméniens en France depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui mettent en évidence des réseaux de solidarité qui s'appuient sur une même filiation au village d'origine. On y trouve une nostalgie de la solidarité traditionnelle. Comment est-ce que cet imaginaire national au sein de la diaspora s'est construit et dans quelle mesure est-il largement idéalisé, fantasmé?
Je crois qu'il y a une symbolique vigoureuse qui porte cette question de la diaspora, de cette pertinence sociologique de la diaspora, c'est la question du territoire perdu, du territoire de l'origine, et qu'on va retrouver dans les récits sur le territoire.
Alors, sur cet imaginaire national.
Sur cet hors du territoire national, exilé sous la contrainte, migration politique davantage qu'économique, ça c'est très important. Et il va y avoir un récit de cette perte. William Safran, qui essayait au début justement de, dans les années 80, définir, on était dans un effort de définition des diasporas, avait posé l'importance du mythe du retour, à la fois dans la diaspora juive, dans la diaspora palestinienne aussi, et dans la diaspora arménienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mythe du retour ? Je me suis vraiment interrogée là-dessus. En effet, on voit très bien se mettre en place, en France, par exemple, un récit national porté par les partis politiques arméniens qui se sont formés dans le contexte ottoman, qui vont se reproduire en France très tôt, dès les années 20, parce que le pic migratoire, on va dire, des premiers arrivés, c'est dans les années 20-22. Ces partis politiques qui vont organiser, qui vont développer une idéologie nationale autour de la revendication territoriale, autour d'une condition de minoritaire, autour d'une condition nationale inachevée, en suspens. Et ça, c'est très très important parce qu'ils vont organiser la sociabilité arménienne en France en constituant des associations satellites qui vont recruter des jeunes.
Et il y a aussi le rôle qui va être joué par l'Église apostolique arménienne, alors, auquel appartiennent environ 90% de la population en Arménie, dans le maintien de ce lien avec la terre d'origine.
Exactement. On est véritablement confronté à une institution, à une, je parle de l'Église apostolique arménienne, qui est une Église nation, si vous voulez, qui est une Église nationale et qui a toujours commémorer le lien national. Donc, cette référence à l'institution religieuse est extrêmement importante et elle va accompagner les Arméniens tout au long de leur dispersion. On va assister à l'édification de lieux de culte apostolique dans les foyers du regroupement en France.
C'est toujours le lieu d'une identité nationale ?
Oui, c'est le lieu encore d'une identité nationale, qui incarne aussi un rapport à la langue, qui incarne l'idée nationale. Et donc on voit très sincèrement, il y a une intrication entre le politique aussi et le religieux.
Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien, Martine Ovanessian. En 1918, les Arméniens parviennent à former un État indépendant que l'Empire ottoman reconnaît par le traité de Batoum. Mais dès 1920, cet État éphémère se désagrège et l'Arménie passe sous domination soviétique. Il faudra attendre le 21 septembre 1991 pour que l'ancienne République soviétique obtienne définitivement son indépendance par référendum. Est-ce que cet événement s'est accompagné d'un grand phénomène de retour au pays ?
Non. Absolument pas. Le grand retour au pays, ça a été le retour de Nerkart, le rapatriement de 1947 vers l'Arménie soviétique sous l'influence des propagandistes arméniens plutôt communistes, on va dire. Mais enfin, ils ont tous participé au Nerkart, hein, y compris
le retour.
Oui, y compris l'Union générale arménienne de bienfaisance. Donc, il n'y a jamais eu un mouvement de grande ampleur, hein, c'est-à-dire l'organisation d'un retour réel, planifié par diverses institutions, associations, etc. arméniennes. Non.
Le 2 juin dernier, Martine Ovanessian, le Bundestag, le Parlement allemand, a voté à la quasi-unanimité une résolution sur la reconnaissance du génocide arménien et la responsabilité du gouvernement des jeunes turcs dans cette extermination. C'est une grande victoire pour l'Arménie, alors que depuis 1923, on le sait, la Turquie n'a jamais cessé de nier le génocide. C'est aussi une des raisons d'être de la diaspora aujourd'hui, à cette volonté de faire reconnaître le génocide.
Il y a eu véritablement des mouvements. Il y a eu ces partis politiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont véritablement beaucoup œuvré, lutté pour cette question de la reconnaissance par l'État turc qui a commis donc ce crime de masse. Il y a eu véritablement des luttes, des combats dans toute l'histoire migratoire. C'est à partir de 1965 qu'il va y avoir un événement. On va assister à une manifestation sans précédent sur les Champs-Élysées et en écho aussi en Arménie, qui correspond au 50e anniversaire, à la commémoration du 50e anniversaire du génocide, à des manifestations dans, pour une fois, les Arméniens vont revendiquer leur droit au territoire. Vont revendiquer aussi leur droit à l'existence, on va dire, d'une certaine manière. Parce que il y a quelque chose dans cette non-reconnaissance qui est une volonté d'effacer les traces d'un groupe, d'effacer même les contours d'un groupe comme ayant existé. Donc, en 1965, il va y avoir, pour une fois, dans l'espace public, cette revendication d'un groupe qui va aussi se présenter comme un groupe minoritaire.
Et la France a dépassé la simple résolution parlementaire pour promulguer une loi, tout comme Chypre, l'Argentine et l'Uruguay. Voilà, c'est à noter. On sait qu'il y a à peu près 500 000 Français d'origine arménienne, à peu près.
Écoutez, le chiffre est discutable. Moi, je lis des fois 500 000, des fois je lis 600 000, des fois je lis 400 000, des fois je lis 300 000. Donc voilà, il faut savoir qu'on est...
C'est les chiffres difficiles.
C'est les chiffres difficiles.
On va écouter le réalisateur d'origine arménienne, Robert Guédiguian. Il s'exprimait en mai 2015 sur son 19e film, Une histoire de fou, alors en compétition à Cannes. Après 100 ans de non-reconnaissance du génocide arménien par les autorités turques, il a voulu raconter l'histoire de la mémoire arménienne.
Tout le film est vu par un innocent qui est blessé dans son corps dans les années 80 par quelque chose qui a été commis 60 ans auparavant, dans l'Empire ottoman, dont il ne sait rien, et il découvre. Et le point de vue du spectateur, c'est celui-là. Les choses nous enseignent plus si elles proviennent d'une émotion, en fait, si elles sont portées par une émotion. Donc je crois qu'une fiction a plus de force qu'une cour d'histoire. Moi, je pense que ce qui m'intéressait le plus, en fait, dans ce film-là, c'était de raconter plutôt l'histoire de la mémoire, en fait, arménienne. L'histoire, on dit toujours, est écrite par les vainqueurs. Donc, aux vaincus, il reste la mémoire.
Robert Guédiguian, dans une archive de l'AFP, oui. Vous voulez réagir, Martine Vanessa?
Oui, la mémoire, c'est très très important. Je disais que, vous avez cité mes deux premiers ouvrages, je voudrais précisément parler d'un ouvrage qui est en cours, qui s'appelle « Le savoir exilé, temps sensible et temps politique ». Bon, on a évoqué précédemment, plus exactement, les temps politiques de cette mémoire, mais je voulais répondre à Robert Guédiguian en disant que, précisément, tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité, des formes de subjectivité résistante qu'on peut repérer dans la création justement de films, dans la création de chants, dans la création littéraire. Donc ces formes sensibles sont extrêmement importantes parce que quelque part elles continuent l'errance. Il y a une esthétique, en fait, de l'inachevé. Parce que il y a quelque chose d'inachevé avec cette non-reconnaissance, et aussi d'inachevé par rapport à ce qu'on appelle cette question nationale. Donc ces formes artistiques, esthétiques, continuent à interroger et à témoigner. Ce sont des formes de témoignage, en quelque sorte. Et la question du témoignage, elle est fondamentale. Parce que concernant la non-reconnaissance et ses effets dans l'ordre générationnel, cette non-reconnaissance et ce génocide qui a impliqué des dégâts dans les générations, des formes de transmission extrêmement difficiles à assumer, ce qu'on appelle l'héritage lourd, ces récits sont constamment habités par la mémoire. La mémoire des parents qui ont été des témoins directs de l'exode, la mémoire du village de l'origine, la mémoire qui incarnait une cohérence sociale, qui incarnait des formes de codification dans le groupe, qui incarnait aussi une fidélité religieuse, est constamment réinterrogée, constamment on essaie d'élaborer, en fait, on essaie de reconstituer une mémoire avant la catastrophe.
Votre dernier livre, Les récits de nos vies atteintes, dont je parlais au début de cette émission, pose justement cette question de la mémoire générationnelle et ce sentiment d'arménité. Comment le récit du génocide, alors, est-il transmis par les rescapés à leurs enfants? Qu'est-ce que vous avez observé?
Beaucoup de cas de figure, en fait. Soit c'est le silence, le mutisme autour de ce qui a eu lieu, histoire de protéger sa descendance. Donc il y a eu une intériorisation des rescapés, un silence très souvent, ou alors parfois des pères qui, à la fin de leur vie, vont réunir leur descendance autour de la table et vont témoigner de ce qu'ils ont traversé, des traversées du génocide. Comme le disait mon premier témoin qui est maintenant mort, il disait « on a traversé une fournaise ». Mais cette histoire, elle est reprise par les descendants. Elle est reprise et on essaie de comprendre les comportements sociaux, les comportements aussi des parents dans l'univers familial. Donc, ça dépend des cas hein, en général, mais on est dans une espèce de réélaboration du roman familial, en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour les originaires d'eux, parce que ils étaient originaires de tel village, qui est d'ailleurs relaté de façon extrêmement idéalisée hein, autrefois. Il y a eu un événement rupture. C'est clair, il y a eu un événement rupture. Un temps d'avant le génocide et un temps d'après le génocide.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la question du retour. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans les témoignages de la diaspora arménienne en France, ce désir presque obsessionnel de connaître la terre de ses ancêtres.
Oui.
Mais comment revenir en Turquie quand subsiste la peur? Et on parle d'une peur physique, mais aussi d'une crainte, d'une certaine façon, de légitimer le gouvernement turc en venant se recueillir sur les lieux du génocide.
Je sais que par rapport à ce mythe du retour dont je parlais tout à l'heure, qui va induire un ensemble de pratiques sociales en France autour de la commémoration, autour des lieux de culte, autour du rappel de la société d'origine et du village telle qu'elle avait été mise en place dès le début par les unions compatriotiques, qui organisaient des solidarités villageoises. Ce mythe du retour actuellement dans les nouvelles pratiques sociales, qui est un récit du territoire, en quelque sorte. C'est pas uniquement le territoire géographique, c'est un langage du sur le territoire. Eh bien, en effet, on constate qu'il y a de nouveaux pèlerinages dans ces zones qui ont été abandonnées, désertées.
Quelles zones, par exemple?
Un retour sur les territoires anciennement dit arménien, dans le village d'origine des parents, des grands-parents. Donc il y a des pèlerinages qui sont organisés par des associations arméniennes. On dit que le processus a surtout pris aux États-Unis aussi, s'est développé aux États-Unis, où on va voir, on va essayer de reconstituer, de repérer, de localiser dans cette histoire de la grande dispersion un lieu de l'origine. Et je dis de l'origine entre guillemets, hein, parce que et c'est le village de l'origine est une notion fondatrice.
Et quel est le récit que ces gens font de leur voyage en Arménie a posteriori ?
Oui, ce qui domine, c'est « on ne reconnaît plus ». C'est le sentiment de ruine, d'une ruine. Ce sentiment d'un engloutissement du village. On ne reconnaît plus les lieux. Voilà. Et on est dans une histoire de la destruction. On parle d'exil arménien. Il ne faut pas oublier qu'à la clé, il y a toute une histoire de l'engloutissement, une histoire de la destruction.
La nostalgie du pays perdu se décline aussi en musique, Martine Ovanessian. J'aimerais qu'on écoute Gaël Faye, chanteur et auteur de ce très beau récit « Petit pays » publié chez Grasset, un premier roman récompensé par le Goncourt des lycéens et qui retrace l'histoire du jeune Gabriel à la veille du génocide rwandais.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya,
warapunwe ni wapuye. Petit pays de Gaël Faye, petit pays donc qui est aussi le titre de son roman paru au début de l'année chez Grasset.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
Si la poésie est bien au-delà du récit de mémoire, comme vous l'écrivez dans Les récits de nos vies atteintes, Martine Ovanessian, je vous propose d'écouter une autre voix, celle de Shumona Sinha, cette romancière indienne révélée par son roman au titre baudelairien « Assommons les pauvres », a choisi de venir en France il y a 15 ans. Elle est auteure de 4 romans publiés chez L'Olivier et elle a écrit « Calcutta », l'histoire de Trisha, qui revient dans sa ville natale pour assister à la crémation de son père, Shumona Sinha, pour qui la nostalgie n'est pas synonyme de mal du pays.
Ce n'est pas la nostalgie pour un espace, pour un pays, mais pour un temps que j'ai un regret pour le temps perdu. L'époque que j'ai passée, l'adolescence, au début de la jeunesse, que j'ai passée à Calcutta, les camarades que j'ai eus, le rêve collectif de la révolution, le changement de la condition humaine que j'ai eu avec mes camarades de l'époque, c'est tout ça que j'ai perdu, cette nostalgie, je l'ai toujours. Mais les mots dans un roman, dans les fictions, ça a la chance, ça a le pouvoir qu'il transforme la douleur, ce qui est dans la réalité insupportable, insoutenable, mais dans les romans, quand on écrit, en tant qu'auteur, quand on les écrit, quelque part, ça devient jouissif. C'est même nécessaire. La littérature, pour moi, c'est dans ce sens, c'est une perversion nécessaire, sublime de la réalité.
Pour la philosophe Barbara Cassin, la nostalgie est une maladie du propriétaire qui doit être libérée de ses appartenances. Et c'est le langage qui permettrait la retrouvaille avec soi, hors de chez soi. La langue comme lieu véritable de l'identité, c'est tout votre projet romanesque, Shumonatina.
Si vous voulez, quelque part, c'est la langue française qui est ma patrie. Je sais que si je perds tout, si je suis obligée un jour de quitter la France, je ne sais pas, après les élections 2017, je ne sais rien, mais au moins la langue française va m'emporter. En sanskrit, il y a un mot pour désigner la religion. En sanskrit, on dit dharma. Or, étymologiquement, le mot dharma vient du thème, du verbe dharon, qui veut dire porter, c'est-à-dire ce qui vous porte. C'est ça le dharma. Donc, pour moi, la langue française, dans ce sens-là, c'est elle qui m'apporte. C'est quelque part ma religion. Mais même si j'utilise ce thème, la religion, avec beaucoup de précaution.
Et comment vous expliquez, Shumonatina, que ce non-lieu de l'exil offre un espace de créativité qu'on constate dans la littérature depuis Ovid? Pourquoi est-ce que cette nostalgie, c'est un moteur aussi puissant d'écriture, selon vous?
Alors, plusieurs choses sur cette question. Quand vous parlez d'Ovid, et ça donne envie de parler longuement, moi, je pense que, mis à part les auteurs comme moi et d'autres auteurs dans ma génération, d'autres que je connais par leurs écrits personnellement, qui sont d'auteurs de nostalgie ou d'exil, mais tous les auteurs, même un auteur français qui est né dans la langue française, mais qui est aussi né en France, on écrit toujours en se déchirant de quelque chose, en s'éloignant de quelque chose. Il y a toujours un voyage intérieur au fond de nous. On écrit toujours en s'éloignant de notre point de départ. Et aussi, deuxièmement, j'aurais envie de dire que c'est une question peut-être natale. Quelque part, c'est lié à notre existence. Quand on est toujours parti quelque part, on est en exil. Notre naissance est un exil. Si on lit Pascal Quignard, pour lui, c'est notre naissance qui est notre exil. Et si j'ai bien compris, si je l'interprète pas mal, mais tout ce qui est de prénatal, c'était là notre vie, et puis on est en train de porter tout au long de notre existence ce point de départ, cet exil, premier exil, de couper le cordon ombilical, de partir de l'eau noire du ventre de notre mère. Donc la langue aussi, c'est une l'eau, c'est une eau, c'est la langue maternelle, on dit langue maternelle, langue de ma mère, langue de mon père. C'est en s'éloignant de cette langue-là, c'est en rejetant quelque part cette langue de ma mère, qu'on crée sa propre langue. Et chaque auteur crée sa propre langue quand elle écrit.
Shumonatina, qui signe également Apatride chez L'Olivier, un roman en miroir entre Paris et Calcutta, sorti prévu le 5 janvier en librairie. On va partir au Liban, terre de refuge pour 1,5 million de Syriens qui ont fui la guerre depuis 2011. Il y a près de 70 ans, en 1948, c'était les Palestiniens qui fuyaient en masse leur terre après la proclamation de l'État d'Israël. Plus de 700 000 personnes prennent alors les chemins de l'exil. Parmi eux, il y a un enfant de 6 ou 7 ans qui deviendra l'un des plus grands poètes palestiniens.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل.
Sur cette terre, il y a ce qui mérite la vie.
رائحة الخبز في الفجر.
L'hésitation d'avril.
تعويذة امرأة للرجال.
L'odeur du pain à l'aube.
كتابات أسخيلوس.
L'incantation d'une femme aux hommes.
أول الحب.
Les écrits d'Eschyle, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mers sur un filet de flûte, et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants.
La voix de Mahmoud Darwish, dont l'œuvre poétique tout entière est hantée par la douleur de l'exil et la nostalgie de la patrie perdue. Et c'est sur cette nostalgie chez les réfugiés palestiniens au Liban que vous avez travaillé, Nicolas Puig. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et directeur adjoint de l'URMIS, l'unité de recherche migration et société. Vous montrez dans l'un de vos articles comment cette nostalgie s'exprime dans la musique à travers d'un côté la chanson nationaliste et politique et de l'autre un répertoire plus traditionnel auquel s'ajoutent de nouvelles compositions. Alors, il y a au Liban une vingtaine d'orchestres, plus ou moins financés par des organisations politiques. À quel moment ont-ils connu leur apogée et dans quelle mesure cette nostalgie institutionnelle permet-elle de garder vivante la mémoire du pays perdu ?
Alors, l'ensemble de ces orchestres qui sont liés aux activités politiques et militantes des réfugiés palestiniens au Liban a connu son apogée durant ce qu'on appelle le temps de la révolution, qui était la période qui s'étend, si vous voulez, des années 1970 jusqu'en gros aux défaites à la guerre du Liban et à ce qui est considéré comme une défaite des Palestiniens dans cette guerre et à la transformation du camp comme un espace de résistance politique mais aussi de création artistique. Les camps de réfugiés ont donné naissance à beaucoup d'artistes au Liban, notamment comme Hassan Kanafani, par exemple, un écrivain, dans cette période-là. Et on passe du camp comme lieu de la résistance et de la résistance culturelle à une marge urbaine, à un espace qui est un espace qui n'a plus du tout la même vocation politique et dans lequel finalement ce qui demeure c'est l'impératif moral du souvenir pour reprendre une expression de Nadine Picaudou. Alors ce qui se passe c'est qu'on a au départ donc en 48 vous l'avez dit en 1948 donc l'exil hein, la Nakba donc la catastrophe ou le désastre qui conduit donc 700 000 Palestiniens à quitter leur terre dont environ 100 000 vont s'installer au Liban.
Et vous expliquez que cette mémoire portée par les réfugiés palestiniens au Liban est souvent résumée par la formule des 3 T.
Oui, tout à fait. Alors, là où je voulais en venir, c'est pour dire que cet événement de 48, si vous voulez, c'est un événement sursignifiant. Un événement sursignifiant négatif hein, qui va finalement irriguer toute la production culturelle, d'abord dans l'élan du retour, dans l'élan du combat, puis ensuite dans quelque chose qui est ben, se maintenir et ne pas se faire oublier en tant que réfugié. Et ça va complètement formater un petit peu la production culturelle dans les camps de réfugiés et provoquer, vous l'avez dit tout à l'heure, provoquer cette espèce d'institutionnalisation de la nostalgie qui va apparaître dans les années 80 avec finalement des formules un peu figées. Parce que chaque génération a produit sa propre vision de la Palestine perdue. Et puis là, on a quelque chose qui se répète un peu, qui est des évocations de la Palestine avec un certain nombre de symboles qui la désignent, qui est souvent une Palestine rurale, qui est une Palestine qui est une Palestine des villages. Les arbres fruitiers, l'olivier, tout un tas d'images et de symboles qui sont relativement figés, qui vont être comme ça institutionnalisés comme finalement un certain nombre d'images, de symboles auxquels on se rattache collectivement pour conserver le souvenir de cette Palestine. Et c'est finalement une institutionnalisation de la nostalgie par la production culturelle qui se crée là.
Et dans quelle mesure cette musique militante donne du sens à l'exil ? Est-ce que la musique est, pour reprendre les mots du philosophe Adorno que vous citez, Nicolas Puig, la seule manière accessible, bien que fragile et vulnérable, d'être chez soi ?
Tout à fait. Et c'est là qu'il faut croiser, si vous voulez, cette nostalgie qui est un peu institutionnalisée et qui est enquistée dans l'appareil militant et politique avec une nostalgie existentielle qui est celle des personnes et qui renvoie à la complexité des expériences, des imaginaires, des individus qui, eux, ont tous gardé un certain nombre de souvenirs, ne fût-ce que par leur nom de famille, par l'origine du village ou de la ville, puisqu'une bonne partie des réfugiés sont en fait des réfugiés urbains, par la toponymie qui existe dans les camps, et ces différentes dimensions vont se croiser. Et c'est par finalement des espèces de chemins buissonniers dans les répétitions les plus formalisées de la production culturelle palestinienne que ces jeunes musiciens vont, par quelques phrases musicales ou par des moments d'improvisation, créer ou broder leur propre créativité sur, sur la formalité ou, sur cette culture formalisée du collectif.
Vous parliez d'un essoufflement, Nicolas Puig, pour les grands récits politiques en musique et les thèmes récurrents comme la grandeur des martyrs et le fantasme de la vie bucolique et villageoise seraient jugés dépassés par les nouvelles générations. C'est ce qui explique, j'imagine, depuis le début des années 2000, l'apparition d'artistes, des rappeurs essentiellement en rupture avec cette vision idéalisée de la Palestine, avec un rap qui leur offre une tribune sur Internet et les réseaux sociaux pour dénoncer leur quotidien dans les camps, mais aussi pour continuer à défendre d'une autre façon la cause palestinienne. Qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle génération ?
Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'au milieu des années 2000, on prend acte de la défaite, on prend acte aussi d'une certaine rigidité, si vous voulez, des formats culturels qui disent le collectif dans les camps de réfugiés. Et ce qui va finalement permettre un renouvellement, hein, je vous le disais tout à l'heure, chaque génération produit aussi son propre discours artistique et son propre discours de l'exil et de la revendication qui n'est jamais abandonnée du droit au retour. Et là, en effet, ce sont les rappeurs donc qui vont proposer une nouvelle formule qui consiste principalement à s'occuper de l'ici et le maintenant, c'est-à-dire à ce qui se passe au Liban, à la question de la situation des réfugiés palestiniens au Liban, de leurs droits sociaux, à la question du camp, donc je vous le disais tout à l'heure, le camp comme marge urbaine, comme marge dépréciée, comme zone d'urbanité fragile. Et donc ils vont proposer une nouvelle formule, et ils le disent assez explicitement d'ailleurs, puisqu'ils disent la chanson nationaliste c'est fini, nous on dit les beats. Donc nous, on dit, on sample, on utilise les samples et on se projette autrement dans la cause palestinienne et on renouvelle en ce faisant la chanson politique pour qu'elle parle désormais aux nouvelles générations. Alors, ça ne veut pas dire se couper des formes anciennes, mais c'est les réactiver par l'intermédiaire des samples, hein, c'est-à-dire de ces extraits sonores, de ces échantillons sonores qu'on va aller chercher dans tout un tas de, disons, dans la musique palestinienne, dans une musique mondialisée, pour construire son propre discours artistique, mais aussi s'inscrire de nouveau dans des généalogies palestiniennes et réinsérer de cette façon-là la question palestinienne, ou la réactualiser, si vous voulez, dans un discours artistique, dans une forme esthétique qui correspond plus, disons, à la génération contemporaine.
Martine Vanessian, vous vouliez réagir ?
Bon, écoutez, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur c'est l'apparition de ces subjectivités, on va dire, résistantes, et sur le chant comme avec un T comme qui continue un peu une errance, qui reformule la question de l'appartenance nationale. Ça me paraît important de réintroduire cette notion du sentiment, justement, d'appartenance, qui s'inscrit en fait en creux d'une défaillance du politique, et qui va en même temps réinterroger, réactiver la mémoire familiale et la mémoire autour d'une cause non résolue, inaboutie. Et donc ces formes sensibles sont extrêmement importantes et elles retravaillent le principe de la transmission entre le principe générationnel, la place aussi occupée par les nouvelles générations au sein de cette histoire, au sein d'une histoire collective inaboutie, je le répète.
Un grand merci, Nicolas Puig. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Merci à vous. On reste au Liban, avec cette fois la réalisatrice franco-libanaise Jeanne Chouaib, que l'on a découverte en 2012 avec son documentaire Pays rêvé, où le Liban, les Libans, nous étaient contés à plusieurs voix, celle de Wajdi Mouawad notamment. Dans ce premier long métrage de fiction intitulé Go Home, Golshifteh Farahani interprète le rôle de Nada, qui revient au Liban. Comme Jeanne Chouaib, elle est une enfant de la guerre civile libanaise, après un exil douloureux, celui de la langue déjà qu'elle a perdue, et dans une quête obstinée de vérité, elle se réfugie dans sa maison de famille en ruine, hantée par son grand-père mystérieusement disparu. Les souvenirs d'enfance de Nada nous apparaissent à l'écran sous forme de flashback. Alors, ce retour au pays natal permet-il à Nada de se remettre de la perte originelle et de retrouver la mémoire? On écoute Jeanne Chouaib, que Clément Salzar a rencontré dans un café parisien.
Pour moi, retrouver la mémoire, c'est pas un gage de vérité. C'est-à-dire que la mémoire elle-même est sujette à doute, à caution. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, dans le souvenir d'enfance, qu'il y a une énorme part de fiction, de reconstruction, par tout ce qu'on nous raconte, par ce qu'on imagine, par nos circonstances présentes, on réinvente le passé, et aussi en fonction de nos propres besoins. Parfois, on a besoin de s'inventer certaines histoires pour tenir le coup. Ce sentiment d'exil, tout le monde le connaît, parce qu'on a tous quitté le royaume de notre enfance, qui était vraiment un monde en soi, qui était toute une manière de voir, vraiment tout un royaume. On le quitte à un moment et on en garde la douleur et la nostalgie et l'enchantement aussi. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous regardent dans leur passé en essayant d'y régler des choses pour pouvoir mieux grandir. Et je pense que ça, c'est chacun.
Effectivement, c'est cette question de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour essayer de pouvoir avancer plus sereinement, non pas le propre des exilés. Il y a peut-être une dimension que l'on associe assez souvent, assez volontiers à la condition exilée. C'est tout de même la dimension mythique du retour. Dans votre film, il y a plusieurs retours. Il y a bien sûr celui de Nada et de Samir. Il y a aussi la question d'une jeune femme palestinienne croisée au sud du Liban. Elle se demande aussi si elle retournera un jour en Palestine. Elle occupe d'ailleurs une maison qui appartient à quelqu'un d'autre, à des émigrés libanais installés, dit-elle, aux États-Unis. Et aussi ce jeune homme dont on célèbre manifestement le retour. Il y a des feux d'artifice et il reviendrait du Golfe. Il y a plusieurs retours comme ça dans votre film.
Oui, c'est ça qui est particulier. Disons que l'identité libanaise, elle intègre les exils. Elle intègre les allers-retours, forcément, puisqu'il y a trois fois plus de Libanais à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur du Liban. Donc, ça qui est intéressant avec le Liban, c'est comme si c'était l'exemple extrême. Mais l'exemple extrême de quelque chose qui est très contemporain et qui est de plus en plus, présent dans le monde entier. La question des mouvements de population, des allers, des retours. Et j'aime bien ce que vous dites, en fait, quand vous utilisez le terme de mythe du retour, parce que je pense qu'il y a vraiment une dimension comme ça. Évidemment, dans la scène avec la jeune fille palestinienne, et pour beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, les Arabes, disons, la Palestine, la perte de la Palestine, c'est comme la perte ultime, quoi. C'est comme le chagrin d'amour absolument indépassable. Et avec le mythe d'un jour retourné, et qu'on espère qu'il devienne réalité, mais qui avec le temps devient de plus en plus mythique. Le mythe, moi, c'est très important parce que j'ai l'impression que notre réalité est aussi beaucoup faite de mythes. Et la différence, justement, entre Nada et Samir, entre Nada et son frère, c'est que lui, il est dans la prose, en fait, et elle est dans la poésie. Elle est dans le mythe. Elle se donne la mission d'Antigone. Et du coup, c'est comme s'il y avait un morceau de mythe, un morceau de ciel qu'elle essaye de ramener sur terre, alors que lui, il est vraiment dans la terre, c'est-à-dire dans le déroulement du temps et le déroulement social normal. Elle, non. Elle tranche et fait rentrer le mythe.
Effectivement, elle a cette obstination d'Antigone. Effectivement, je pense à un mythe là aussi, celui d'Ulysse finalement qui part d'Ithaque, mais en étant obsédé par son retour. Et quand il revient à Ithaque, sa maison, elle a été occupée aussi par d'autres. C'est dans le mythe même d'Homère, la maison, quand on revient, la maison, elle n'est pas du tout telle qu'on l'a laissée et il faut se battre pour la retrouver comme avant.
Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Forcément, quand on part, notre place ne reste pas comme une place vide. Contrairement justement aux disparus, qui sont comme les fantômes dans le film, puisqu'il y a eu beaucoup de disparus pendant la guerre du Liban, et eux restent comme des sortes de places vides, des spectres. Mais nous, ceux qui partent par choix, ceux qui partent... On ne laisse pas cette place indéfiniment vide, c'est-à-dire le réel et le présent nous recouvrent notre place abandonnée, notre maison laissée.
Yallatna, yallatna, latbahla tayr l'hama, ruhu ya hamam latsaddi, bidhakana dalatna. يلتنا يلتنا لتبح لطير الحامة روح يا حمام لا تصدق بضحك عنا دلتنا تيشتشي وحد تيشتشي والخاوخ تحت المشمشي كل ما هب الهوى لا طفلنا دم شمشي هيو هيو هيلينا بستك لكنك عيرينا تنغسل لتياب نادى وننشر
I'm
c'est une inscription qui est taguée donc en anglais au cours d'une nuit alors qu'elle dort dans cette maison. Elle est violente, cette inscription. Pourquoi est-ce qu'on demande à Nada de rentrer chez elle?
Bah parce que peut-être qu'elle n'a plus sa place, c'est un peu le message. En fait, quand on est migré, on entend beaucoup « rentre chez toi ». Puis on essaie de rentrer chez soi en sachant pas très bien ce que ça veut dire. Et chez soi, on n'est plus chez soi. Donc la place de l'exilé, la place de l'immigré, elle est particulière en ce sens-là. Parce qu'on peut n'être chez soi nulle part à ce moment-là. On n'est pas encore, on n'est plus. On revient et on n'est plus comme il faudrait être. Et...
C'est une évidence de revenir. Vous, par exemple, Jeanne Chaib, vous êtes retournée au Liban?
Moi, je suis retournée à peu près régulièrement. Il y a eu des moments clés et des retours différents. C'est-à-dire, le premier retour clé, je dirais, c'était juste à la fin de la guerre. Parce que là, ça faisait plusieurs années que je n'étais pas retournée. Et puis j'étais adolescente, donc c'est pas la même chose que quand on est enfant. Et c'était juste la fin de la guerre et... on pouvait de nouveau accéder à notre maison, alors qu'on ne pouvait plus y accéder pendant très longtemps. Elle était dans une zone où on ne pouvait pas aller, nous. Et du coup, j'ai vu la maison dans cet état. Je l'ai découverte comme Nada découvre sa maison, et ça, c'était vraiment clé. Ça a ouvert beaucoup de choses pour moi, et je pense beaucoup de pistes de fiction aussi en moi, comme en germe, sans vraiment le savoir. J'ai rêvé un moment d'y vivre. Et puis la guerre de 2006 est arrivée et pour moi c'était clair que j'y arriverais pas, quoi. Mais plus que d'y vivre, c'était y faire un film. C'est faire un film, ça apprend à regarder et à écouter tout à fait autrement. Mais en fait, je pense qu'au final, si je devais résumer ce que j'ai appris, c'est que même s'il n'y a pas de retour possible physiquement, quotidiennement, dans la vie de tous les jours, le film est un retour, c'est-à-dire c'est... En fait, j'ai un ami qui m'a dit ça très bien. Lui aussi, il est moitié libanien, moitié autrichien, c'est Patrick Chirac. Il m'a dit finalement, go home, mais est-ce que home, c'est pas le cinéma? Et c'est un peu ça pour moi, c'est-à-dire que c'est par la fiction, c'est dans la fiction que je retrouve mon pays.
Votre premier court-métrage s'appelait « Sous mon lit ». Un de vos premiers courts-métrages, pardon, Sous mon lit, c'est une des expressions peut-être les plus évidentes de l'enfance. Sous mon lit, c'est le lieu où le monstre peut apparaître, c'est le lieu qui est voilà, source autant de peur que de fascination. Home, ça peut être le cinéma. Cette maison au Liban, c'est une, pour Nada, peut-être pour vous, c'est une quête des origines, mais au final, on voit assez peu le Liban. À chaque fois, ce sont des lieux où on projette énormément, on projette, on fait penser à ce que Foucault appelle les hétérotopies. Mais bon, c'est des lieux qui peuvent avoir une géographie, mais cette géographie importe plus. Ce qui compte, c'est ce qu'on a imaginé.
Ah, mais c'est exactement ça pour moi. C'est-à-dire que s'il y a nostalgie, c'est une nostalgie de quelque chose qui n'existe pas. Mais qu'on imagine, qu'on invente, qui est dans une sorte d'alambic alchimique en nous et qui produit peut-être de la poésie. Et pour moi, c'est, oui, c'est ça la nostalgie.
Un grand merci Martine Ovanessian de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle votre dernier livre, Les récits de nos vies atteintes, une histoire arménienne inconcevable. C'était chez L'Harmattan en 2013. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe de Culture Monde, l'incontournable Clémence Alzard, le précieux Samuel Bernard, notre stagiaire hors pair Juliette Gadeau, le virtuose Alexandre Fougeron à la réalisation, sans oublier l'indispensable Pascal Baudin à la technique aujourd'hui. Vous êtes bien sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la grande table avec Raphaël Bourgois. يا حبيبي وترمي يا حبيبي محبتنا حلوة